Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 13h.
Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode spécial de Heureusement en France, un épisode spécial vacances où on nous passera une petite playlist de musique qui nous affectionne tout particulièrement. Aujourd'hui, pour participer à cette émission, nous sommes trois. Il y a moi-même François Westin, je suis accompagné de Amaury Chouya.
Bonjour.
Et de Alain Dupuis.
Bonjour à tous.
On va, comme vous avez pu l'entendre, voyager un peu dans l'univers geek, notamment on passera par le Japon pour vous parler un peu de films, pour vous parler un peu d'animé. On vous parlera de jeux vidéo, forcément. On passera par le Japon, mais on fera un petit tour mondial. Et ça nous prendra déjà beaucoup de temps.
Exactement.
Et pour commencer, on va mentionner la musique que vous venez d'entendre, qui est bien évidemment Ghost in the Shell. Un des animés, j'ai envie de dire, c'est un des films classiques. Voilà. S'il faut regarder un film d'animé, celui-là sera sûrement dans la liste.
Oui, surtout pour, en tout cas d'un point de vue occidental européen, ça reste l'un des films majeurs, en plus qui a inspiré pas mal de cinéastes américains par la suite, notamment les plus célèbres, les Wachowski avec la trilogie et l'univers Matrix, qui est très inspiré un peu de cet univers-là, notamment aussi dans les grands classiques, on a Akira, hein, qui est dans le même esprit.
C'était exactement ma pensée, il y aura Ghost in the Shell et Akira, ça reste des films un peu particuliers par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, hein. On est loin d'un shonen à la Naruto ou autre. Ici, on va parler d'intelligence artificielle et on en parlait dans la dernière émission.
Tout à fait.
Et ici, il y a un problème de conscience lorsqu'on regarde Ghost in the Shell, puisque eux mettent en place cette humanoïde intelligence artificielle qui arrive, au bout d'un moment, à prendre conscience qu'elle existe et elle arrive à faire ses propres choix. Et toute la série se base majoritairement là-dessus, ou justement, est-ce que la machine doit être considérée comme un humain ?
Ouais, c'est toute la thématique abordée par le réalisateur sur cette série-là, et c'est vrai que dans les années 90, c'était un sujet un peu original, en tout cas, une approche différente de mettre ce transhumanisme qui aujourd'hui est vraiment pleinement d'actualité. Et je pense que ces œuvres-là ont vraiment influencé pas mal de gens, notamment en Californie, aux États-Unis, sur ces thématiques-là, avec les technologies qui sont arrivées par la suite.
C'est ça, Ghost in the Shell, c'est 4 films, 3 séries d'animation. Il y a d'ailleurs Standalone Complex qui est assez sympa à regarder, qui prend un peu une histoire de côté par rapport à ce qu'on voit avec la personnage principale. Et on a eu récemment, en 2017, un magnifique film.
J'ai pas osé.
Avec Scarlett Johnson.
Je sais pas. Qui l'a vu ici?
Non.
Personne. Moi, forcément. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue dans l'équipe.
T'as osé quand même regarder? Après, moi, sur l'abondance que j'avais vue, forcément, ça, ils savent très bien faire. En termes de production, ça a l'air propre.
Voilà. Pour faire simple, je pense que c'est pas mauvais si tu ne connais pas Ghost in the Shell.
Ouais.
Et ça sera le problème avec beaucoup d'adaptations. Lorsque tu connais un animé ou un livre, tu as ta propre attente par rapport au film. Et c'est vrai que Ghost in the Shell partait déjà avec une barre qui était très haut. Et avec Scarlett Johansson, donc forcément.
Ouais, et puis le débat a déjà eu lieu avec Ghost in the Shell, le film, puisque il y avait le réalisateur Mamoru Oshii qui avait pris certaines libertés par rapport au manga d'origine. Donc à chaque fois qu'il y a adaptation, il y a débat. Après, sur les adaptations américaines, il y a toujours un peu ce concept. On le verra peut-être, et on en parlera peut-être après, mais un peu d'édulcorer, voire de vider de sa substance initiale pour mettre des jeunes adolescents sans intérêt.
Des adaptations américaines, quoi.
Ouais, voilà. Après, il y en a des biens, mais
la
plupart.
Ça plaise à tout le monde. Du coup, on enlève des choses, on rajoute des trucs.
Est-ce que tu viens de spoiler Mortal Kombat ?
Entre autres, oui. Je crois qu'il y en a 2-3 sur lesquels on pourra rebondir sur la même idée.
Allez, on va rester dans l'univers animé avec, si vous êtes fan de manga, si vous êtes fan d'animé, cette chanson va forcément vous dire quelque chose.
Oh, oui.
We'll be right back. Yes, c'était Cowboy Bebop. Forcément, une musique qui, si vous connaissez, forcément, vous la connaissez par cœur.
Qu'est-ce que c'est bon. Magnifique.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette série Cowboy Bebop qui est sortie en 98? On prend un petit coup de vieux.
Ouais, moi je me souviens, du coup, j'étais adolescent, ça passait à Canal+, à l'époque, de mémoire. Et non, c'était vraiment un super animé qui, avec le temps, je trouve, vieillit très très bien. Et qui avait réussi ce mélange des genres et ce côté anachronique d'avoir un côté un peu rétro, 70, jazzy, avec science-fiction un peu à la Blade Runner.
Voilà, on avait un chasseur de primes qui se faisait passer pour un cow-boy dans un vaisseau spatial, pour faire simple.
Donc c'est ça, à chasser des brigands pour récupérer des récompenses et survivre. Donc il y avait vraiment un peu tous les codes du western, mais dans un univers un peu de science-fiction. Alors c'est assez rigolo de le voir maintenant avec cette vision du futur, toujours des ordinateurs avec des gros boutons et des pixels à l'écran. Alors que là, en 2019, on n'a pas de vaisseau volant, mais on a des technologies quand même plus abouties avec des écrans un peu plus un peu mieux définis en tout cas. Mais un super animé et super aussi réalisateur, parce qu'il a fait quelques séries de grande qualité, un peu
réalisé par Shinichiro Watanabe.
Exactement, et la BO de Yoko Kono. Voilà.
Quelle puissance!
Exactement, qui est une femme d'ailleurs.
Yoko Ono est une femme, c'est
une compositrice. Exactement.
J'espère qu'on parle bien de la même.
Non, l'autre.
Donc, forcément, une série culte pour les amateurs d'animé. Et on va continuer un peu dans le même genre. Et là, on va faire une petite dédicace. Un membre de notre équipe qui n'est pas là actuellement, qui est parti dans voyage à Cannes. Et on a notre ami Reynald qui adore les musiques de métal. Et je me suis dit, on va lui faire une petite dédicace avec une musique un peu bourrin, tout simplement. Ouais. Mais ça parle d'un animé que certains d'entre vous doivent connaître. Et surtout parce que c'est passé récemment sur Netflix. Il est enfin à disposition. Ouais. Vous allez avoir la chance d'écouter le générique de Death Note, c'est la deuxième partie, et vous verrez, ça bouge un peu, ça va réveiller les gens qui s'étaient endormis dans le canapé.
Oh oui.
Hey, hey, you sucker! On a bien fait de prévenir que ça allait être un peu bourrin.
Ça réveille. Si vous étiez endormi, bonjour.
Voilà Rénal, j'espère que ça t'a plu.
Mais... ouais, moi j'étais surpris parce que c'est vrai que je m'attendais au générique de la première saison et pas de la deuxième qui est un peu plus douce on va dire.
C'est ça, mais voilà, il fallait un peu de piment dans cette émission. Maintenant que tout le monde est réveillé, on va pouvoir repartir sur un rythme normal, je vous rassure.
Ça fait du bien.
N'éteignez pas la radio tout de suite, on va se calmer, tout
va
bien. Nous
avons votre attention, merci.
Alors Death Note, effectivement, c'est un des mangas un peu dark qu'on peut voir en série animée et qui prend l'univers du thriller et qui arrive à nous scotcher lors de cette série. C'est vraiment quelque chose, je pense, que les gens ont apprécié. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note et qui n'ont peut-être pas Netflix ou qui sont déjà en train de chercher, par exemple, c'est un étudiant qui, un jour, trouve un bouquin dans la rue. Dans son collège et décide de... il voit qu'il y a des noms écrits dessus et il se rend vite compte que lorsqu'il écrit un nom, la personne décède très rapidement. Et en fait, ce cahier a été jeté par un démon, une sorte de faucheuse qui est censée lui-même faire le boulot, écrire les noms des gens et puis après aller chercher leur âme. Et là, il est tellement ennuyé, ce démon, qu'il décide de le jeter sur terre et s'est trouvé par cet étudiant. Et il se met en quête de justement d'écrire des noms, mais d'essayer d'être un peu un justicier.
Ouais.
Et tous les gens qu'il voit, qui ont commis des crimes, va essayer de les punir lui-même en écrivant leur nom, tout simplement. Et il peut même spécifier comment la personne va décéder.
Oui, c'est ça. Il peut l'anticiper, il peut le scénariser, et c'est assez intéressant dans l'approche parce que c'est justement le sens de la justice en fait qui est vraiment abordé au fond de ça, avec peut-être la peine de mort qui a toujours cours au Japon par exemple, et avec une série qui est très bien construite dans la dualité, qui arrive à ne pas être manichéenne avec le bien et le mal, alors que c'est le sujet même de la série. Assez intéressante aussi dans les confrontations, comme une partie d'échec en fait. Parce qu'il y a très peu de personnages au final.
C'est ça, en fait il va vite rencontrer une personne qui fait partie de la police qui va essayer justement de le stopper parce que, comme tu disais, il y a un problème. Qui fait vraiment le bien, qui fait vraiment le mal? Est-ce que c'est le policier qui se dit mais attendez, vous pouvez pas tuer les gens comme vous le voulez? Et l'autre qui dit mais non, moi je tue que des gens qui sont potentiellement méchants, qui ont commis des crimes.
Ouais.
Et ils vont essayer de se chasser l'un l'autre lors de tous ces épisodes, et ce qui rend un thriller assez passionnant. On se demande quand est-ce qu'il va se faire avoir. C'est toujours
tout,
ça.
Tout
est-ce qu'il va se faire découvrir? Et pareil, le sort de policier en fait est quelqu'un d'inconnu qui ne montre jamais son visage. Donc les deux se cachent chacun derrière une identité qui n'existe pas et vont essayer comme ça de gagner par rapport l'un à l'autre. C'est assez passionnant comme animé.
Ouais, vraiment bien. Alors c'est vrai que c'est à la limite, on va dire, du seinen et du shonen, on va dire parfois, même si ça reste très adulte, mais ça reste des adolescents en fin de compte, ou des très jeunes hommes qui sont concernés par cette histoire. Le personnage principal doit être un adolescent de moins de 18 ans, c'est très ça. Certainement.
Alors attention, il y a une adaptation qui a été faite en live avec des vrais acteurs.
Ouais.
Voilà, on en a parlé.
J'ai pas osé non plus. Non. D'ailleurs, pour revenir juste avant, il y a aussi une adaptation de Cowboy Bebop qui est prévue par Netflix. Donc, ils n'arrêtent pas, ces gens continuent en toute impunité. Donc, si vous voulez changer le monde, Faites une pétition.
Les live actions vont détruire le monde. Hein.
Après, peut-être au bout d'un moment, on aura une bonne surprise. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je rêve d'un jeu vidéo Cowboy Bebop façon JRPG. Mais voilà, une adaptation film, non, pour l'instant, je ne l'attends pas spécialement.
Il y a eu des jeux vidéo Cowboy Bebop.
Oui.
Dans Death Note, on risque de s'embêter un peu dans le jeu vidéo. Ouais.
C'est ça.
À moins que ça soit un peu comme qui veut gagner des millions, tu dois juste choisir une phrase à chaque fois.
Bon. Oui, les jeux mobiles, là, tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs.
On parle de live action et Alain, en venant dans cette émission, m'a dit voilà, j'adore le jeu vidéo Mortal Kombat, mais j'ai absolument envie qu'on parle du film.
Ah bah oui.
Comment
C'était pas ça le sujet.
Ah mais. Je pense qu'on s'est mal compris.
Pourtant, tu es un grand fan, tout le monde le sait.
Ah oui. Comment jeter quelqu'un sous le bus?
Il a le laserdisc, la VHS, le DVD, le Blu-ray 3D, une photo dédicacée de Christophe Lambert.
Ah non, mais c'est. On le va... selfie avec Christophe Lambert aussi.
Le selfie.
On va justement faire une petite bascule dans le jeu vidéo, mais pour faire ça de manière assez souple, nous allons vous passer une adaptation, une musique du film Mortal Kombat.
Est-ce que c'est souple ça?
Et encore une fois, c'est un style de musique assez particulier, et j'ai envie de dire, il en faut pour tout le monde. Donc si vous aimez la techno, la trance,
c'est maintenant.
Mortal Kombat. Malheureusement.
Transition.
Encore une fois, ça réveille. Hein.
Ah ouais, ça donne envie de dire plein de choses.
Donc à la base, voilà, pour l'anecdote, nous voulions parler du jeu vidéo et puis Alain s'est dit non, vous pouvez pas mettre la musique du film, mais on l'a mis quand même.
Ah bah oui, non mais c'est une œuvre culte hein, du 7e art.
Mais justement parce que c'est une musique que limite on aurait pu entendre dans les boîtes et que je pense que les gens s'en souviennent encore.
Bah oui, parce qu'il faut savoir.
C'est passé dans les boîtes à l'époque, hein, c'est obligé.
C'est surtout qui a composé cette musique? D'où viennent ces gens? Est-ce que vous avez une idée?
Et pourquoi on n'est pas sur Radio Campus? Peut-être qu'ils n'habitent pas loin.
Exactement. Alors ils sont peut-être d'ailleurs plus proches de Villeneuve-d'Ascq que de la Californie, j'ai envie de vous dire.
Tout à fait.
Parce que tout simplement, les compositeurs sont belges d'origine. Donc la BO de Mortal Kombat, le groupe s'appelait The Immortals, mais derrière ce groupe en fait se cache un groupe culte de la scène eurodance, trans, techno des années 90 qui s'appelait Lords of Acid. Et donc c'est un duo de Belges qui a composé cette BO. Là on a écouté un remix fait par un Américain un peu plus tard, mais voilà, c'est ça l'origine. Donc il y avait 7 pistes pour chaque personnage plus le titre principal qui après a été repris pour le film. Voilà pour l'histoire.
C'est magnifique.
Ah oui, non mais.
C'était un instant culture.
Ouais, mais on est sur Europe 1.
C'est la même. Non, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6, il est 13h28. Et Alain va nous parler de ce jeu vidéo de Mortal Kombat qui est sorti un an après Street Fighter 2.
Oui, bah c'était avec des personnages animés. Donc c'est vrai que pour l'époque...
Ça fait peur sur le papier, généralement.
Je vais dire ça comme ça, mais c'est des personnages digitalisés. Mmh. Alors pour l'époque, c'était ça, c'était du digitalisé.
Exact.
Alors, ils prenaient des mouvements du mieux qu'ils pouvaient, hein, parce que des fois, on voyait bien qu'ils étaient couchés, assis par terre, mais bon, ça passait plus ou moins. C'était gore pour l'époque.
Ouais. Et franchement, tu avais les finishim.
Et franchement, j'ai de très bons souvenirs de ce jeu. Mmh. J'y ai beaucoup joué, par exemple, c'était sur Super Nintendo. C'est vrai qu'on y a joué sur Amiga après... Bon, la qualité était moins bonne. Bon, après, il y avait l'arcade. Hein. Mais après, ils ont fait un 2, un 3. Enfin, bref. Et les tout derniers qui sont sortis, franchement, sont de très bonne qualité. C'est de très bons jeux de baston. Pour celui qui aime bien le jeu de baston, franchement, il y a.
Ouais, oui, c'est. Et puis, ils ont gardé un peu la rigidité au niveau du gameplay tout en, en s'adaptant. Le 10, c'est assez sympa. Surtout en plus qu'ils ont incrusté des personnages extérieurs avec les Predators, les Aliens, etc. Donc, la série, elle a toujours marché là-dessus, hein, sur le côté gore et adulte, contrairement à Street Fighter qui est un peu justement plus manga et
plus peut-être arcade,
adolescent arcade.
Le prochain sort bientôt d'ailleurs. Hein. J'ai vu un trailer il n'y a pas longtemps. Ça donne envie.
Le prochain Street Fighter ?
Non, le prochain Mortal Kombat, monsieur. Oui.
Prochain Street Fighter sera vendu en mini pack, hein, comme d'habitude.
Oui, Switch.
Voilà. Si vous attendez 2 ans, vous aurez peut-être la version Ultimate. Mais
cliquez 70€, puis après, vous dépensez 200€ pour avoir le pack complet.
Et des personnages additionnels. Bon, je me moque de Street Fighter, mais c'est pareil sur tous les jeux de combat.
Ce qui était génial avec
Mortal Kombat, c'est pareil. Hein.
Ce qui était génial avec Mortal Kombat, c'est que dans la cour de récré, les gens venaient en disant j'ai trouvé un nouveau finishing pour tel berceau où ils commencent à enlever la colonne vertébrale du gars.
Pour notre génération, c'était vraiment ce côté on recherche les babalities, les fatalities. Il y avait quand même des combinaisons assez complexes. On n'avait pas Internet, donc pour connaître tout
Internet,
ça.
Même en ayant le magazine.
Oui.
Le magazine nous expliquait les fatalités, tout ça. Il fallait les réussir, hein. Parce que franchement, c'était pas toujours évident.
Ouais, parce que quand tu le vois pas exécuter, c'est.
Puis des fois, fallait
évident.
Être tout prêt, il fallait sauter pour
il
faire le
que l'autre
n'ait
plus
la manip,
point de vie.
Il fallait, c'était vraiment très compliqué, mais
très belle époque.
Mais franchement, c'était un très bon jeu pour l'époque.
Et d'ailleurs, si vous êtes curieux sur comment c'était réalisé le jeu vidéo à l'époque, il y a une petite vidéo sur YouTube super intéressante qui montre justement comment ils avaient enregistré les mouvements. Donc en fait, il est filmé, il est découpé après au niveau d'un point de vue digital avec des pixels. Donc c'est super intéressant.
Parce que comme Alain dit, ils sont tous allongés par terre.
Ouais, mais c'est ça en fait, c'est assez rigolo. Ils décomposent les mouvements, donc c'est.
Et
c'est,
par rapport à plein de jeux qui ont pu exister avec des personnages digitalisés, je pense que un des seuls qui est resté, enfin pour les jeux de l'époque, c'est Mortal Kombat, parce qu'il y a eu plein de jeux où ils ont fait des essais avec des jeux digitalisé, mais c'était horrible.
Ne me dis pas que Street Fighter n'était pas bien avec les persos en...
Non.
Il y avait Killer Instinct qui était un
Il y avait Jean-Claude Van Damme.
Ils ont fait du Jean-Claude Van Damme, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Ah oui, sur Mega Drive, c'était quoi, Super CD là ?
Il fallait exploiter le filon, que voulez-vous ? Allez, on va parler d'un autre jeu et cette fois-ci, on va parler à tous les amateurs de pinball, de flipper. Et je sais, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a deux types, hein, forcément, de fans. Et vous pouvez être l'un ou l'autre, ou les deux. Il y a ceux qui aiment les flippers qu'on peut trouver dans les cafés du coin ou maintenant dans les fameuses fêtes du flip, où on en parlera tout à l'heure. Et il y avait aussi des versions qu'on pouvait trouver en jeux vidéo. Et notamment, on les a vus apparaître, notamment au niveau de la période Amiga. On a commencé à avoir des jeux qui étaient extrêmement sympathique, extrêmement fluide, extrêmement arcade. Et ça va nous donner l'occasion d'écouter l'intro de Pinball Dreams. Pinball Dreams, un jeu de 1992 réalisé par Digital Illusion Creative Entertainment.
92.
Eh oui, Alain, ça fait longtemps que tu as jeté ton Amiga. Et forcément, s'en sont suivis d'autres jeux de flippers qui nous ont extrêmement plu, tels que Pinball Fantasy.
Hein, pour nous... Après, il y a eu Pinball Illusion. Après, je vais pas m'étaler sur la tonne de flippers qui ont pu exister.
Mais on avait toujours ce même concept de quatre tableaux. Et généralement, le quatrième était un niveau un peu Halloween, un peu horreur.
Généralement, on l'aimait bien celui-là. Hein. C'est celui souvent, on jouait plus au premier et au dernier.
C'est ça.
Et ceux qui étaient entre les deux, bon, c'était un petit peu moyen.
Et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que le flipper n'est pas mort. On en voit de moins en moins, mais je pense que quelqu'un s'amuse à tous les racheter et en faire une super collecte.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on peut trouver des animations dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, telles que la Carboflip récemment, donc Carbonade et Flipper.
Très belle ambiance.
Concours de Carbonade et concours de Flipper. Oui, je vois que tu me regardes avec des gros yeux, Alain. C'est actuellement, ça existe. À Carvin, on aura prochainement...
Alors, c'est la Baraka Flip. C'est le 2 et le 3 juin.
Ah, on reste toujours dans l'univers de la friterie ici. C'est quand même terrible. Hein.
C'est la Baraka Flip.
La Baraka
Il faut
Flip.
Surtout pas... Non, mais franchement, j'y suis allé l'année dernière. Je ne connaissais pas.
Ouais.
Franchement, on paye 5€ l'entrée. C'est que des passionnés. Vous vous retrouvez avec des flippers, mais tous les flippers de votre enfance que vous avez pu connaître, même des tout récents, des tout derniers flippers qui sortent encore, parce que ça existe encore.
Flippers de Walking Dead, par exemple.
Voilà.
Flippers de Game of Thrones.
Il y a un concours sur place. À l'entrée, si par exemple vous avez un flipper, il y a tous des pièces détachées, il y a plein de pros, mais vraiment de passionnés qui peuvent vous aider à réparer votre flipper. Enfin, c'est vraiment une occasion à pas rater. Et je vous dis, donc pour 5€ l'entrée, vous jouez toute la journée, si vous voulez.
C'est ça, vous n'avez pas besoin de remettre de pièces dans le flipper. Ah, c'est très important.
Tous les flippers sont en free play. Bon, faut attendre son tour, hein, des fois, mais franchement, ça vaut le coup.
Tous
les passionnés de flippers, il n'y a pas photo, il faut y aller, quoi.
Voilà, on a beau adorer les jeux de flippers en jeux vidéo, on sera toujours très loin de l'interaction physique qu'on a avec le flipper.
Avec la machine,
ouais. Le problème, c'est que si on tape l'ordinateur, ça fait un peu... voilà, quoi, ça fait cher, quoi.
Ça ne peut pas bouger la bille, surtout.
Beaucoup de claviers n'ont pas survécu à nos jeux de flipper.
Les claviers des bureaux, ça peut faire mal.
Parce que quand tu essaies de tilter ton clavier, ça ne fonctionne pas.
Ah, peut-être sur tablette, on pourrait
sur PlayStation, si, mais...
Avec la manette qui est gyroscopique.
Comme vous dire, il y a quand même un bon jeu qui existe actuellement de flippers, c'est Pinball FX.
Qui reprend des vraies tables de flippers, c'est celui-là ?
Non, ils ne reprennent pas des vraies tables de flippers. Ça, c'est un autre logiciel qui...
Qui fait un peu de l'émulation.
C'est de l'émulation. Alors, c'est pas toujours nickel. Ça marche pas mal. C'est Pinball Arcade, je pense. Je suis plus sûr.
Et Pinball FX ?
Mais Pinball FX, franchement, c'est des flippers originaux. Mais ils sont super bien réalisés. Ils en sortent régulièrement. Là, ils en sont à la version 3. Il y a même la version 2 qui marche en VR avec un Oculus Rift, par exemple. Qui est, franchement,
pour se mettre à la place de la boule.
C'est sympa à jouer.
Baseball.
Et franchement, là, pour l'instant, si vous êtes fan de flipper et que vous voulez jouer sur votre console, ordinateur, enfin, c'est sorti même sur les tablettes. Il y a même une version payante où on peut payer pour dire, allez, je fais mieux que le suivant. Ah oui, il y a vraiment une version où on peut miser des sous.
Wow.
Ah ouais, je cautionne pas trop.
Écoute, si c'est ça qu'il faut pour avoir du free to play, d'avoir des petites options comme ça, ça me dérange pas. Ça n'intéresse que les gens qui vont payer. Ils seront entre eux. Il y aura pas de pay to win, par exemple.
Ouais, là c'est
après on est limité. Il y a pas énormément de flippers. Mais bon, c'est des parties. Des fois, c'est 3 minutes. Alors celui qui va faire le plus gros score en 3 minutes.
Ouais, là, bon, c'est une sorte de pari sportif, quoi, vraiment. Sauf que tu paries sur ta propre performance.
Mais on ne sait jamais sur qui on va tomber, machin, et on ne sait pas comment c'est géré derrière.
Ah, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle ?
Moi, personnellement, je ne m'y aventure pas.
D'accord.
On va rester un peu, puisque ces adaptations de Flipper étaient sur Amiga, on va rester un peu sur cet ordinateur qui nous a fait vivre mythique. Tellement d'émotions musicales ou encore vidéoludiques pour enchaîner avec cette fois-ci un jeu de bagnole et pas n'importe lequel, un des jeux qui a plus cartonné à l'époque. C'était bien avant les Need for Speed. Oui, faudra revenir un peu en arrière. C'est Lotus et là c'est l'épisode 3. Et voilà, Lotus Turbo Challenge, un des jeux de bagnole, bon, qui restait assez simple pour l'époque. Hein.
Bah, c'est, disons que pour l'époque, il était vraiment bien réalisé.
Et on avait des super musiques.
Il y avait énormément de jeux de bagnole qui étaient dans le même genre, mais Lotus sortait du lot. Franchement, c'est un des jeux qui est vraiment sorti du lot, qui était un des meilleurs. Quoi.
Alors, si vous ne connaissez pas Lotus, vous connaissez peut-être Outrun, qui était assez présent dans les salles d'arcade avec la Ferrari rouge où exact. On avait un mec et sa gonzesse.
Ah, c'est vrai que là je parlais surtout ordinateur, enfin sur tout ce qui était ordinateur. Ouais. Après sur console, oui.
Bah, Outrun, ouais, on le retrouve aussi en clin d'œil dans la série Yakuza sur console Sony, où on peut toujours y jouer sur bande d'arcade à des anciens jeux, dont celui-ci.
Et pour sûr, la prochaine fois, on vous mettra une petite musique d'Outrun qui s'écoute toujours assez bien. Quoi.
Ouais.
Toujours encore dans le jeu vidéo, et cette fois-ci, on va vous parler d'un shoot'em up. Et je sais qu'Alain est friand des shoot'em up. Alors attention, il me fait nuance.
Ah oui. Attention.
Ah non, ce n'est pas un shoot'em up. C'est entre les deux.
Je considère ça comme un shoot'em up. Donc
voilà, c'est l'animateur qui décide.
C'est moi qui appuie sur les boutons. Donc.
C'est entre la simu, c'est de la simu arcade.
Et un des premiers jeux à exploiter comme ça la 3D sur Super NES pour nous donner un super résultat. On parle bien sûr de Star Fox.
C'est Star Wing en français. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent que Star Wing. Star Fox, c'était aux États-Unis. Tout à fait.
We'll be right back.
Street Fighter.
Perdu.
Ah, mais on dirait trop, j'ai envie qu'il crie Aidoken.
Mortal Kombat. Ouais, et voilà, Star Fox. Alors, on a une discussion un peu off où on discutait est-ce que ça, il s'agit d'un shoot'em up ou d'un rail shooter. Et apparemment, ça, c'est les deux. Hein, le shoot'em up étant vraiment la grande catégorie et une des sous-catégories, le rail shooter.
Considérer un mix des deux. Allez.
Oh, c'est gentil de. Ah, allez.
T'es plus conciliant à l'antenne. Hein.
Parce que c'est le week-end. Hein.
C'est vrai.
Si vous vous souvenez de ce jeu qui vous emportait dans un vaisseau spatial et vous permettait de vous battre, d'envoyer des missiles à tout va en prenant partie d'un personnage, soit le plus connu étant le renard, hein, Fox, c'est lui qui porte le nom du jeu, mais on avait aussi d'autres personnages anthropomorphiques tels qu'une grenouille.
Il y avait un corbeau, il y avait un chien.
Je les prenais jamais.
Alors les noms, je ne me rappelle plus.
Voilà, mais les noms, c'est pareil. Ouais,
mais effectivement, l'univers, comme très souvent chez Nintendo,
bon
il est de qualité, les gens ont vite adhéré au concept, les musiques sont pareilles. Aujourd'hui, elle perdure. Hein, et les thèmes ont été réutilisés après, justement, dans la grande kermesse Smash Bros. Hein, donc, ils ont toujours été forts là-dessus et c'est une très belle franchise. Moi, j'avais bien aimé l'épisode sur, qui a rien à voir du coup pour cette fois avec un shoot'em up, mais l'épisode par exemple sur GameCube était vraiment formidable.
Donc voilà, si vous avez encore votre NES ou, mais maintenant on a des nouvelles versions qui reprennent les mêmes personnages, c'est toujours bon à rejouer.
Ouais, ou sinon, acheter une mini Super NES.
Ouais, on peut en mettre des jeux en plus dessus, hein, avec une petite manip.
Allez, on va expédier les dernières musiques qu'on a sous la main. Pierre-Yves, qui est l'un des membres de l'Another Podcast. D'ailleurs, si vous voulez réécouter nos podcasts, allez sur anotherpodcast.fr ou sur le Facebook de l'émission Heureusement en France. Et Pierre-Yves nous a dit, si vous faites une émission de musique, vous êtes obligé de passer le thème de Wild Arms. C'est la seule musique que je veux entendre.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est l'un des seuls jeux où, avant de jouer au jeu, au lieu de zapper l'intro, c'est la seule fois où j'allais, à chaque partie, avant de charger ma sauvegarde, aller réécouter l'intro complète qui était tout simplement magnifique. Magnifique.
C'est
un
délicat.
Thème qui reste en tête, qui n'est pas frais de partir. Hein,
oui,
voilà.
C'est très beau. Une très belle intro.
C'était quoi Wild Arms? Tout simplement un RPG qui était
un
sorti.
Un petit RPG même. Dans la dans la pure tradition. Et non, c'est vrai qu'on on en discutait hors antenne et c'est un des grands épisodes de la génération PlayStation avec beaucoup de jeux JRPG justement qui ont été découverts par le grand public en Europe. Bon, après, avant, il y a eu effectivement sur Super Nintendo les Secret of Mana et même des Final Fantasy, mais c'est resté un peu plus confidentiel. Là, en plus, par exemple, sur Wild Arms, il y avait des scènes cinématiques, mais en animé japonais. Donc, c'était quand même une grande révolution.
C'était bien fait.
Ouais, c'était bien fait. La musique était de qualité. Donc, on était vraiment immergé dans un film de A à Z. Voilà, il y a une belle époque du jeu vidéo japonais.
C'était une histoire de RPG assez basique, mais quand on jouait chaque personnage avec ses capacités spéciales, ça rendait le jeu assez touchant. Et comme dans tous les RPG, ben forcément, à chaque fois que vous faites trois pas, vous avez un combat qui apparaît.
C'est ça.
Et ça doit vous rappeler.
Il était bien réalisé.
Et on va terminer cette émission de Heureusement en France spéciale playlist en passant une petite musique de film, et ça permettra aussi pour nos collaborateurs des aventuriers des salles obscures d'enchaîner avec nous. Et on va parler d'un grand film. On va boucler la boucle. On avait commencé au Japon et on va finir au Japon avec l'un des plus grands films de Kitano. Et avec son compositeur associé Joe Hisaishi. Pour ceux qui connaissent, donc la musique de Kids Return. On en avait plein à Joe Hisaishi à le choisir, mais on a choisi celle-ci. Voilà, Kids Return. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci.
Ciao.
Ciao. Au revoir. Ciao.